sur les docks. À l'automne, nous vivrons bien davantage qu'aujourd'hui sous le signe de H1N1. Il est probable que l'hémisphère nord soit confronté à une nouvelle vague plus forte de propagation d'un virus qui aura pu entre-temps prospérer dans l'hémisphère sud où il aura peut-être gagné en virulence. Dès ce 11 juin, l'Organisation mondiale de la santé a déjà déclaré l'entrée en phase 6 de la grippe A. Phase 6, c'est celle de la pandémie. Peut-être l'affaire sera-t-elle moins grave qu'annoncée. Elle permettra en tout cas une répétition générale de la catastrophe qu'entrevoient de toute façon les spécialistes pour un avenir proche. La stratégie des autorités sanitaires françaises est, en conséquence, de pouvoir disposer du plus grand nombre possible de doses de vaccins. Sur l'industrie pharmaceutique pèse une terrible responsabilité. Elle voit aussi s'ouvrir un immense marché. Jusqu'ici, contrairement à ce qu'on pense, les vaccins représentent un pourcentage faible de son chiffre d'affaires. Sanofi Pasteur, pour ne prendre que l'exemple de notre pays, achève pour l'heure la fabrication de son vaccin contre la grippe saisonnière et entame la course, non pas, dit-elle, contre les autres labos, mais contre H1N1. Au moment clé, de combien de doses disposera-t-on? Pourra-t-on, ou faudra-t-il d'ailleurs, vacciner l'ensemble de la population, ou par priorité, certains adultes et les enfants? Sur les docks, ajoute une réflexion rétrospective au dossier qui s'ouvre. Inès Leroux retrace ici la polémique qui n'a pas cessé d'accompagner une autre campagne de vaccination généralisée. Rappelez-vous, c'était il y a une quinzaine d'années, quand on voulait combattre, sur trop de fronts peut-être, l'hépatite B.
Eh bien, voyez-vous, pendant combien, 5 ans, 10 ans, 8 ans, je ne sais pas exactement, plusieurs années, je faisais ce qu'on appelle du génie génétique, de l'ADN recombinant. Donc j'apprenais à couper de l'ADN, à le recoller. J'avais des compétences en technologie, une certaine avance dans ce domaine à l'Institut Pasteur où je travaillais déjà depuis plusieurs années.
Le professeur Thiollet nous reçoit à l'Institut Pasteur. Il a mis au point le premier vaccin recombinant contre l'hépatite B en 1984.
Et étant médecin, je me suis dit, je ne vais pas toute ma vie faire de la technologie. Il faut que j'applique mes avances, mes connaissances à un problème médical. J'ai réfléchi à plusieurs choses, l'interféron, etc., etc. Et j'ai finalement retenu l'hépatite B. Dans la mesure où le génome, le virus n'avait pas été cloné, ni séquencé, ni quoi que ce soit. Voyez-vous, ça va de la technologie au fait que je suis médecin vers finalement quelque chose qui a des applications médicales.
Et en quoi il y avait un enjeu sanitaire important derrière l'espoir d'un vaccin contre l'hépatite B?
Eh bien parce que l'hépatite B est une maladie tout de même assez fréquente, en France moins qu'en Chine. En Chine, il y a 10% de la population qui est porteur chronique du virus, vous vous rendez compte, 10%. En France, c'est 0,3%.
Donc je crois qu'il y avait déjà un vaccin contre l'hépatite B qui avait été mis au point.
Absolument.
Par le professeur Maupas.
Absolument. Le premier vaccin a été fait par Philippe Maupas. C'est lui qui a fait le premier vaccin. Ça, lorsque je fais une conférence, je le dis toujours parce qu'il faut tout de même lui rendre cet honneur. Mais son vaccin était efficace. Il y a pas mal, à ma connaissance, il n'y a pas eu de complications. Mais il y avait quand même deux problèmes. Un, le vaccin a été fait à partir de sérum humain, et injecter du sérum humain à quelqu'un, il y a toujours un petit doute, un petit point d'interrogation. Est-ce qu'on n'injecte pas aussi un virus actif? Est-ce qu'on ne transmet pas un peu de sida? Enfin, même si c'est parfaitement purifié, il y a un petit doute. Deuxièmement, pour l'industrie pharmaceutique, il fallait se procurer des grandes quantités de sérum de malades atteints d'hépatite B. Il fallait qu'ils courent après dans les hôpitaux, etc. C'était compliqué. Voilà les deux problèmes. Donc le vaccin que nous avons fait est, du point de vue structure, en somme, du point de vue vaccin, c'est la même chose. Ce sont des petites particules virales, c'est la même chose. Mais premièrement, il est fait par culture dans des cellules animales en culture in vitro. Et deuxièmement, l'industrie pharmaceutique n'a pas à courir après le sérum elle fait cultiver et cultive elle-même ses cellules.
Et c'est là tout l'intérêt du génie génétique.
Oui, je crois, oui, qu'on peut dire ça. L'intérêt, c'est de faire quelque chose qui est actif, mais en plus facile à préparer.
Histoire du premier vaccin fabriqué par génie génétique, le vaccin contre l'hépatite B. Une émission proposée par Inès Leroux. En route pour l'université d'Orsay, Christian Vélo, chercheur en biologie moléculaire, nous reçoit dans son laboratoire.
Un virus, c'est une sorte de capsule de protéines à l'intérieur de laquelle se trouve son information génétique, d'accord ? Dans lesquelles il y a donc les gènes du virus. Et le but, ça a été d'aller chercher un gène du virus qui détient le secret de fabrication des protéines de la capsule, donc celles qui sont visibles de l'extérieur et qui sont donc reconnues comme corps étranger et contre lesquelles l'organisme fabrique des anticorps, et de mettre ce gène de virus qui détient le secret de fabrication de sa protéine immunogène, en fait, de le mettre dans des cellules, par exemple des cellules de levure de boulanger, qui vont prendre ce gène à leur propre compte, le décoder et fabriquer la protéine virale. Et on multiplie ces cellules de levure dans des fermenteurs, donc en espace confiné, et on va à ce moment-là ensuite éclater les levures, extraire de ces levures la protéine virale fabriquée par ces levures, et injecter uniquement la protéine virale. Enfin, uniquement, il y a toujours des adjuvants hein, autour du... Ça, c'est le principe actif, disons. Mais on n'injecte plus le virus entier dans ce cas-là. On n'injecte que la protéine de surface du virus.
Que la surface.
Voilà. Et comme c'est elle qui est reconnue comme corps étranger hein, vis-à-vis de l'organisme, eh bien, l'organisme fabrique des anticorps contre cette protéine sans pour autant qu'on ait eu besoin de lui injecter le virus entier. Et du coup, le jour où le virus attaque, eh bien, l'anticorps a aussi des anticorps... L'organisme, victime de ce virus, a aussi déjà les anticorps prêts à faire feu contre le virus. Voilà, donc le principe intellectuellement, sur le concept, sur le papier, glacé, c'est beau, c'est joli. Je dis souvent que Pasteur en aurait une érection posthume, si vous voyez ça, c'est vraiment quelque chose de séduisant, hein, c'est vrai, d'un point de vue intellectuel et du point de vue du concept.
Et ce médicament n'est pas un OGM.
Ce n'est pas un OGM. L'OGM est un intermédiaire dans le processus qui permet de faire ce médicament. C'est-à-dire que ce que le patient va chercher à la pharmacie n'est pas l'OGM, ne sont pas l'organisme ou les cellules transgéniques dans lesquelles on a introduit le gène étranger pour faire produire à ces cellules la protéine d'intérêt pharmaceutique. Ce qu'ils vont chercher à la pharmacie, c'est la protéine d'intérêt pharmaceutique. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est formidable et sans risque, mais ça a l'avantage, si je puis dire, d'être un médicament, c'est-à-dire que c'est évalué au cas par cas. C'est pas parce que ça s'est bien passé, par exemple, pour l'insuline qui est produite de cette manière pour soigner les diabétiques depuis 1982. Et a priori, il n'y a pas eu de graves problèmes rencontrés avec cette insuline. Donc l'alternative qui s'est avérée être la technologie OGM, ça a été plutôt une réussite. Mais a priori, c'est un petit peu difficile de dire que c'est la solution miracle, parce que bien souvent, lorsqu'on est confronté à un problème comme celui de l'insuline de porc pour soigner les diabétiques, eh bien, la solution qui est choisie n'est pas forcément celle qui offre le meilleur rapport bénéfice-risque, parce qu'il y a un effet de mode, la science n'échappe pas à la mode, et puis parce qu'il y a surtout des enjeux financiers énormes et qu'il faut un retour sur investissement rapide. Donc on choisit souvent la technologie qui permet d'avoir le meilleur retour sur investissement, mais qui n'est pas forcément celle qui offre le meilleur rapport bénéfice-risque. Dans le cas de l'insuline, ça a été évidemment motivé par des intérêts financiers, mais le fait est que ça s'est avéré être plutôt un succès. Le débat sur le gène est vraiment au centre de nombreux autres débats, et notamment la brevetabilité du vivant. Le gène BRCA1, par exemple, c'est les initiales en anglais de breast cancer, qui veut dire donc le cancer du sein, et donc un gène de prédisposition de cancer du sein qui est breveté. Donc si on veut travailler sur ce gène pour essayer de mieux comprendre le processus de développement du cancer du sein chez la femme, ou si l'on veut essayer d'élaborer de nouvelles alternatives pour le traitement, etc., ou pour la prévention, eh bien il faut payer des royalties pour pouvoir avoir le droit de travailler.
Ernest Guttmann, conseil en propriété industrielle, a collaboré de longues années avec l'Institut Pasteur. À la fin des années 70, il parvient à protéger par brevet la séquence génétique qui permettra de fabriquer le vaccin contre l'hépatite B. C'est une des premières fois que l'on brevette un gène en France.
Le génie génétique laissait entrevoir à beaucoup d'organismes de recherche ou d'entreprises privées des potentialités de recherche formidables. Et le virus de l'hépatite B avait cette particularité qu'il avait un génome très petit, donc plus facilement analysable peut-être que celui d'autres organismes réputés vivants. Donc tout le monde s'est précipité sur ce qui semblait pouvoir déboucher un jour sur quelque chose d'industriellement très intéressant.
Et l'équipe française est la première à trouver le gène en cause.
Oui, Pierre Thiollet était le premier à divulguer, en tout cas dans le cadre d'une demande de brevet, le génome entier du virus et à avoir établi que, je ne me souviens plus combien il y avait de paires de bases, mais enfin ça devait être autour de 1900 et quelques paires de bases.
La fabrication du vaccin contre l'hépatite B est à la fois une révolution en termes de fabrication industrielle du vaccin, mais aussi une révolution juridique. C'est-à-dire que...
C'était une révolution juridique, surtout qu'à l'époque, on discutait beaucoup sur la possibilité ou non de breveter des organismes vivants ou réputés tels. Et beaucoup de gens estimaient que... Et la majeure partie de la doctrine estimait que des organismes vivants ou les parties constitutives de ces organismes vivants n'étaient pas brevetables, étaient naturellement, entre guillemets naturellement, exclus de la brevetabilité. D'autres, dont j'ai été estimé qu'à partir du moment où la loi n'excluait pas certains objets de la brevetabilité, ils pouvaient être brevetables.
Et comment vous avez fait pour pouvoir poser un brevet sur un gène, alors que les polémiques sont finalement assez récentes ?
On était encore à une époque où on imaginait, si je puis dire.
Juridiquement.
On imaginait juridiquement et on essayait de transposer en langage juridique ce qu'on avait l'habitude de faire à propos d'objets inertes.
Mais alors, c'est donc aussi une révolution, on peut dire, économique pour l'Institut Pasteur.
Moi, je crois, oui. L'Institut Pasteur a récolté pendant quelque temps les fruits de son inventivité, ou en tout cas de l'inventivité de ses chercheurs.
Je mets la tapas sur ce que je fais à l'Académie. Voilà. Aujourd'hui, ça. Bravo.
La cravate, c'est pour l'Académie de médecine, mais pas pour l'Institut Pasteur.
Non.
Pierre Thiollet.
Oui.
C'est le tout premier vaccin fabriqué par génie génétique.
Oui, absolument.
Vous aviez un concurrent. Vous aviez Angérix, a été mis au point, le vaccin américain.
Oui.
A été mis au point à peu près en même temps que le vôtre.
Oui, oui. Enfin, finalement, c'est un peu quand même dans un deuxième temps. D'ailleurs, les États-Unis donne des revenus de brevets à l'Institut Pasteur. Les brevets que nous avons pris protègent vis-à-vis d'Angérix, si vous voulez. Ils versent des sommes à l'Institut Pasteur.
C'est-à-dire que les industriels américains qui produisent Angérix, oui, reversent
des revenus à l'Institut Pasteur. Oui,
parce que vous avez breveté des choses
c'est
en
ça.
Amont.
Voilà,
vous avez breveté,
antérieurement. Oui.
Antérieurement, vous avez par exemple breveté une séquence génétique.
On a profité le principe, enfin on a pris plusieurs brevets, le clonage, et puis après le principe de la production de particules virales par génie génétique, sur cellules eucaryotes, qui est plus générale qu'animale. Nous on a pris animal, mais quelqu'un qui ensuite prend levure retombe tout de même dans les mêmes brevets.
Oui, le vaccin américain Angérix s'est fait sur des levures et le vôtre était fait sur des cellules d'ovaires, de hamsters, de chimie.
C'est ça. Enfin, disons cellules animales pour simplifier les choses.
Christian Vélo, chercheur en génétique moléculaire à l'Université d'Orsay.
C'est vrai que la technologie OGM donc, a permis de produire certains médicaments à grande échelle, typiquement les protéines d'intérêt pharmaceutique, donc les médicaments qui sont des protéines. Le fait de pouvoir le faire par technologie OGM permet d'en produire des quantités énormes. Donc là encore, on est en droit évidemment de soupçonner que l'industrie pharmaceutique a tout intérêt à ce moment-là à élargir au maximum son marché pour faire un maximum de profit. C'est-à-dire finalement à distribuer un médicament à des patients qu'on n'aurait peut-être pas vraiment besoin. Hein, et notamment des patients solvables, donc des pays riches. Alors quand c'est un médicament curatif, on ne peut pas faire ça parce que la personne sait si elle est atteinte de la maladie ou si elle ne l'est pas. Elle sait si elle a des symptômes ou si elle ne les a pas. En revanche, le vaccin, de manière générale, est donné le plus souvent à titre préventif. Mais il est facile, effectivement, d'essayer d'obliger, ou en tout cas d'inciter la population à recourir à un produit au prétexte d'une prévention. Et donc, dire, voilà, vous êtes des parents responsables, vous ne pouvez pas laisser vos enfants courir le risque de choper telle ou telle maladie. Donc, c'est facile, c'est facile dans un contexte comme ça de vendre un produit. Il y a un pouvoir du commerçant sur le consommateur qui est un pouvoir absolu, puisqu'il s'agit, on met en balance la santé de la personne, ou pire, la santé de ses enfants. Donc, on le met devant une responsabilité pour l'obliger à acheter quelque chose. Ça, c'est extrêmement facile à faire. Donc, à partir de là, effectivement, le fait de pouvoir produire un médicament en grande quantité va inciter, bien sûr, à le vendre. Et les arguments utilisés pour le vendre sont très faciles lorsqu'il s'agit d'un médicament susceptible de protéger la personne pour une éventuelle attaque future.
D'abord recommandé aux personnes à risque, toxicomanes, personnes en contact avec le sang des malades dans le cadre de leur profession, le vaccin contre l'hépatite B devient obligatoire pour le personnel médical en 91, puis, sous l'impulsion de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, il est recommandé aux adolescents en 94 par l'intermédiaire d'une grande campagne publicitaire.
Le rapport de l'hebdomadaire Impact Médecins sur la santé des Français, il dresse une constatation rassurante. L'on vit de plus en plus vieux en France, presque 73 ans en moyenne pour les hommes, un peu plus de 81 ans pour les femmes. Mais il y a encore beaucoup trop de décès dus à l'hépatite B, entre 1000 et 2000 par an chaque année en France. C'était hier soir, le thème du téléphone sonne et le professeur Trépeau de l'Hôtel Dieu de Lyon a rappelé qu'un simple baiser peut transmettre aussi cette maladie.
Et la salive peut transmettre l'hépatite B. La transmission par le baiser est bien documentée, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça que l'âge optimal, c'est la préadolescence. Le baiser salivaire, indépendamment de toute sexualité stricto sensu, est capable de transmettre l'hépatite B. Il faut donc vacciner les préadolescents avant le premier baiser.
Claude Béraud, donc c'était le premier extrait que je voulais vous faire écouter, qui date du 16 septembre 1994, au moment où on lance la campagne pour la vaccination anti-hépatite B. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, je pense qu'effectivement, je suis très étonné, parce que Christian Trépeau était un des meilleurs hépatologues français. Et à ma connaissance, en 1994, et encore actuellement, le baiser qui tue est un slogan qui n'est pas documenté sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'effectivement, la salive contient le virus, mais on ne peut pour autant pas du tout affirmer qu'il y a une relation entre un French kiss, le fait d'embrasser une personne, et d'être contaminé. Il n'y a pas une étude qui le démontre, et je crois qu'on n'est pas prêt d'en voir une, parce que c'est assez compliqué quand même.
Claude Béraud, je voulais que vous nous racontiez comment vous aviez vécu la campagne vaccinale des années 94 et 95, ce que vous faisiez et quel message vous aviez reçu.
En 94-95, j'étais professeur des maladies de l'appareil digestif, spécialisé dans les maladies du foie, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Alors comment j'ai vécu ça ? Eh bien, j'ai trouvé que c'était scandaleux. Brutalement, sans aucune raison scientifique, on a élargi considérablement les indications de vaccination contre le virus de l'hépatite B. Et cet élargissement des indications ne me paraissait en aucune manière justifié. Parce que les risques de contamination par le virus B sont connus, les modes de contamination sont connus, c'est essentiellement le contact avec un sang contenant le virus et d'autre part les relations sexuelles avec un sujet atteint d'une hépatite B, enfin porteur du virus B. Il y a d'autres modes de contamination, notamment la promiscuité avec un sujet qui est porteur du virus B. Par exemple, dans une famille où le père ou la mère sont atteints d'une hépatite B, il est logique de vacciner les enfants car les risques sont relativement élevés. Mais il n'était en aucune manière justifié de vacciner des adultes ne pratiquant pas un nomadisme sexuel et n'étant pas professionnel de la santé, n'étant pas en contact avec des sujets de façon très habituelle, avec des sujets atteints d'hépatite B. Moi qui soignais tous les jours des malades atteints d'une hépatite B, aiguë ou chronique, je ne me suis pas fait vacciner. Je n'étais pas vacciné et je ne me suis pas fait vacciner parce que les malades ne pouvaient pas me contaminer.
Si je suis une patiente et je viens, j'ai pas de rapport sexuel à risque, je me protège contre le sida, je ne suis pas toxicomane,
oui.
Et je voyage, comme la plupart des jeunes à peu près dans notre pays.
Oui.
Je viens vous voir et je ne sais pas si je dois me faire vacciner contre l'hépatite B ou pas. Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Je vous dirais, si vous êtes en contact avec une personne qui est porteuse du virus B, avec laquelle vous avez des relations sexuelles, ou avec laquelle vous vivez pendant un certain temps, vous avez des risques de contamination qui sont relativement élevés, parce que vous pouvez avoir oublié un jour de prendre un préservatif, parce que vous pouvez être contaminé d'une manière ou d'une autre. La promiscuité avec quelqu'un atteint d'une hépatite B est un facteur effectivement de contamination possible par des raisons, par des voies qu'on connaît mal d'ailleurs. À ce moment-là, effectivement, je vous dirais, eh bien, si vous êtes contaminé, votre risque de faire une hépatite chronique et donc une cirrhose et donc un cancer du foie est d'environ 1 à 2%.
Si je suis contaminé par le virus, après j'ai 1 à 2% de chance de faire une cirrhose.
De faire une hépatite chronique.
D'accord.
Au maximum 5%.
Vers l'éradication de l'hépatite B en France. L'hépatite B jaunisse pouvant être mortelle, maladie dont on parle peu et qui frappe pourtant 15 000 personnes par an. Elle peut être d'autant mieux combattue qu'il existe un vaccin. Vaccin jusqu'ici réservé aux sujets à risque, mais dès la rentrée, nourrissons et jeunes enfants seront systématiquement vaccinés. En outre, le ministère de la Santé lance une campagne d'information pour les adolescents. Le ministre Douste Blasi avec Isabelle Dor.
C'est une maladie qui est à la fois fréquente, qui se propage très vite, qui est transmissible et qui est dangereuse. Elle est très fréquente parce que plus de 5% de la population en France a déjà été au contact du virus.
Donc c'est toujours un extrait, c'est Douste Blasi qui prend la parole, c'est un extrait du 7 juillet 1994. Première chose qu'il dit, il dit qu'elle est fréquente, cette maladie en France, et que 5% de la population est au contact du virus. J'ai calculé que 5%, ça faisait environ 3 millions de Français.
Il y avait 300 000 personnes déjà à ce moment-là qui étaient porteurs du virus B. En 1994. Alors combien y avait-il de gens qui étaient en contact avec les 300 000 personnes du... Impossible à dire. Et en plus, ça n'a absolument aucun intérêt. Parce que moi, j'étais en contact tous les jours avec des malades atteints du virus B. Pour autant, je ne suis pas fait vacciner.
Elle se propage vite parce qu'il y a plus de 15 000 nouveaux cas par an, essentiellement dans la tranche d'âge 15-30 ans, donc des adolescents et des adultes jeunes. Elle se transmet par le sang, de la mère à l'enfant pendant la grossesse. mais également par les rapports sexuels. C'est la maladie sexuellement transmissible la plus fréquente. Et à un moindre degré par la salive. Enfin, elle est très dangereuse. Puis...
Pour dire que c'est la maladie la plus fréquente. Enfin, je ne sais pas, moi. Il y a des quantités de maladies sexuellement transmissibles. Je ne crois pas qu'il ait fait la liste de toutes les maladies sexuellement transmissibles, qu'il ait fait le total. Et puis, après, en plus, parmi les hépatites B, il faut faire le partage entre les gens qui ont été contaminés, par voie sexuelle et les gens qui ont été contaminés par voie sanguine, les gens qui ont été contaminés par une voie qu'on ne connaît pas, par promiscuité, etc., etc. Ah ben, je crois qu'il a dit ça, absolument, au pif. La cuillère. Même pas la cuillère. Donc, tout ça pour dire que c'est du pipeau, tout ça, c'est des chiffres comme ça. Seulement, c'est le ministre qui le dit, donc ça doit être vrai.
Je finis avec cette archive.
Mais également par les rapports sexuels, c'est la maladie sexuellement transmissible la plus fréquente, et à un moindre degré par la salive. Enfin, elle est très dangereuse, puisque 30% des cas d'hépatite B vont se transformer en cirrhose ou en cancer du foie.
Donc voilà, c'est la dernière chose, 30% des cas d'hépatite B se transforment en cancer du foie, en cirrhose.
Ben, vous avez vu le chiffre que je vous ai donné, 1 à 2%. C'est des gens qui ont eu une infection par le virus B. Morale, il faut faire très attention, et je crois surtout que le rôle des journalistes, c'est pas d'écouter les ministres, c'est de leur poser les questions. Faut pas prendre comme argent comptant les paroles de qui que ce soit, d'ailleurs. Hein. On l'a vu là pour le ministre, on l'a vu aussi pour un des meilleurs hépatologues de France.
Suite à la campagne vaccinale, de 1994 à 1998, plus de 25 millions de Français seront vaccinés. Mais rapidement, des neurologues de la Pitié-Salpêtrière s'inquiètent de l'apparition de sclérose en plaques chez des patients après vaccination. Depuis, ce sont plus de 1500 cas de sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes qui ont été déclarés aux autorités sanitaires. Bernard Bégaud, pharmaco-épidémiologiste et président de l'Université Bordeaux 2, a travaillé comme expert en pharmacovigilance dans l'affaire du vaccin contre l'hépatite B.
Je pense que c'est l'exemple le plus triste d'une campagne qui a complètement raté sa cible. Et effectivement, c'est une leçon de ce qu'il ne faut pas faire en santé publique, qu'on utilise souvent, du reste, pour le montrer à nos étudiants. Ne faites surtout pas ça.
C'est-à-dire ne pas faire quoi ?
C'est-à-dire lancer une campagne massive sur des chiffres incertains, ne pas l'accompagner par des mesures évidentes d'encadrement, ce qui éviterait ou aurait évité que ça dérape, et laisser les lobbies, enfin, en particulier les laboratoires pharmaceutiques, mener leur information à leur guise, c'est-à-dire distiller des messages qui n'étaient pas raisonnables quoi, et qui ont abouti à cette situation de blocage d'aujourd'hui, dont il sera assez difficile de sortir.
Donc si on reprend cette histoire point par point, d'abord une campagne de vaccination qui utilise des arguments qui ne sont pas avérés.
Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées. Il y a effectivement peut-être de la légèreté, parce qu'aujourd'hui on ne lancerait certainement pas une campagne avec aussi peu de précautions. Il y a aussi la crédulité, sans doute, et puis probablement dans un cercle, alors je ne sais pas si c'est le deuxième, le troisième ou le quatrième, ont gravité des gens qui, eux, ont délibérément mis des slogans ou fait circuler des informations qui, elles, étaient vraiment fausses, et eux le savaient, quoi. Par exemple, le sida tue plus... l'hépatite B tue plus en un jour que le sida en un an.
C'est un message qui circulait dans les cabinets des médecins.
Absolument, c'était une brochure. Ce genre de message, du reste que je trouve personnellement scandaleux, il y en a eu d'autres. Il y a eu la transmission par la salive, il y a eu des chiffres de risque d'hépatite B qui étaient multipliés par 10 ou par 100 et que tout le monde savait faux et qui circulaient partout, y compris sur les médias officiels. C'est assez étonnant.
Alors, comment des personnes comme des médecins, comme un ministre de la Santé, à savoir M. Douste-Blazy, ont pu ne pas savoir qu'ils commettaient des erreurs?
Non. Je ne sais pas si il y a erreur. Enfin, je suis prudent, mais ce qui est certain, c'est que dans cette affaire, ce qui est très surprenant, c'est que l'on a fourni aux décideurs, alors pas seulement du reste Philippe Douste-Blazy, mais également Bernard Kouchner, des chiffres qui n'étaient pas exacts. Alors c'est vrai qu'un ministre, bon, même s'ils sont tous les deux médecins, ne sont pas censés, en tout cas n'ont pas le temps d'aller vérifier aux sources la véracité des chiffres qu'on leur donne. Donc eux, on leur fait passer une note, ils communiquent dessus. Mais ce qui est étonnant, c'est plutôt qui a fourni ces informations et dans quel but. Enfin, pourquoi ? Enfin, s'il y a eu vraiment là un dysfonctionnement soit des services, soit une volonté de promouvoir le vaccin. Et je ne dis pas forcément que c'est malhonnête. Il est possible que ce soit des gens qui étaient tellement convaincus qu'il fallait convaincre, si je puis me permettre de le dire, que tous les moyens étaient bons. Vous voyez, la France est un pays dans lequel le vaccin est sacré. Hein, c'est Pasteur et français. Enfin, Pasteur, je parle de Louis Pasteur, hein, le savant inventeur. Et donc, chez nous, on ne discute pas le vaccin. Et ceux qui discutent le vaccin sont des gens qui sont des terroristes, enfin, ou des gens liés aux ligues antivaccinales, enfin, bon, qui doivent dormir sur des tapis et manger des racines de pissenlit. Donc, là-dessus, c'est vraiment très étonnant. C'est pourquoi a-t-on sans arrêt véhiculer des informations inexactes, ou en tout cas à la limite de l'inexactitude. Et tout est parti du fait que l'OMS a, dès 91, préconisé qu'on élargisse la cible des vaccinés, qui étaient autrefois les personnes uniquement à risque. Alors ça, on l'a utilisé, bon, à juste ou pas à juste titre, mais on n'a pas, en revanche, utilisé d'autres paroles ou écrits de l'OMS en particulier. Il est quand même curieux de voir que ce n'est que 5 ans après le début de la campagne que la France s'aperçoit qu'il ne faut pas pratiquer le rappel de la vaccination chez des gens qui ont été vaccinés comme il faut, c'est-à-dire par 3 doses. Pendant 5 ans, on a matraqué les gens à coups de rappel et tout d'un coup, on se souvient, mais c'est vrai que l'OMS ne le recommande pas. Ça, c'est curieux parce qu'on utilise l'OMS dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que la France s'est retrouvée dans une situation assez particulière. Parce que souvent, les gens disent l'affaire de la... sur l'hépatite B, hein, sous-entendu sclérose en plaques, c'est une lubie parce qu'on ne l'a jamais vue qu'en France. Donc c'est un problème franco-français, c'est une lubie de neurologues et de pharmacovigilants excités. En fait, la France est le seul pays dans lequel on a vacciné aussi massivement la population adulte. C'est-à-dire de très très loin, hein, ça, c'est des taux de 7 à 10 à 20 fois ce qu'on voit en Angleterre ou ailleurs. Et donc, c'est lié en partie au fait que l'on a vacciné, revacciné, survacciné, en particulier des adultes, sous prétexte de rappel qui ne se justifiait pas, sauf peut-être chez certaines professions de santé. Et des gens ont reçu ainsi 7 fois des doses qu'ils n'auraient pas dû recevoir, quoi. Donc ça, c'est assez bizarre. Donc l'OMS est utile dans un sens, mais on l'oublie dans l'autre. Oui. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, parce que je ne l'ai jamais retrouvé dans aucune autre affaire. Vous voyez, dans le sang contaminé, l'hormone de croissance, la vache folle ou toutes les affaires sur les médicaments, les gens ont eu une incertitude à un moment donné. Mais on résolut quand même ce problème en prenant les hypothèses les plus optimistes, les plus pessimistes, et en trouvant un moyen terme acceptable par tous. Ici, pas du tout. Ça a toujours été le plus favorable au vaccin qui a été bombardé, quoi. Puis, sans discussion.
Marc Girard, vous êtes mathématicien, médecin, spécialiste du médicament et consultant pour l'industrie pharmaceutique. Vous avez aussi été expert judiciaire pour plusieurs grandes affaires de santé publique, notamment le Distilbène, l'hormone de croissance et le vaccin contre l'hépatite B. Selon vous, est-ce que la réglementation qui entoure ce médicament, le vaccin contre l'hépatite B, a été respectée, à savoir les conditions de mise sur le marché, de promotion, de prescription?
Alors, d'une part, il y a De même qu'il n'y a pas les vaccins en général, on ne peut même pas dire qu'il y a le vaccin contre l'hépatite B. Il y a plusieurs vaccins contre l'hépatite B qui sont, à mes yeux, spécialisés médicaments, des médicaments distincts. Alors, sur la question de la réglementation, c'est un des points qui saute le plus aux yeux, c'est-à-dire on a vécu quand même dans une sorte d'anarchie, en tout cas d'exception réglementaire. Je vais en prendre quelques exemples. Il y a une spécialité française qui s'appelle Geneva, qui a représenté la moitié des parts du marché lors de la campagne vaccinale. Et ce Genevac en question, quand on regarde dans les manuels de référence, on se rend compte qu'il n'a jamais été autorisé dans d'autres pays étrangers de niveau sanitaire équivalent au nôtre. Alors, cherchez l'erreur, on a une spécialité franco-française qui n'a été commercialisée nulle part qu'ailleurs en France. Enfin, tout ça est un peu bizarre. Mais l'autre problème réglementaire qui angoisse énormément les gens de l'agence depuis que je l'ai pointé, c'est le suivant. Lorsqu'on regarde l'évolution des indications qui permettent la campagne de vaccination, c'est-à-dire qui permettent de vacciner à peu près tout le monde en 1994, on se rend compte que la référence de l'AMM, c'est toujours la référence de l'AMM initiale, c'est-à-dire 87 pour Genevac et 88 pour Ingerix.
Alors, l'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché.
L'autorisation de mise sur le marché. Bien, pour un spécialiste du médicament, c'est un énorme scandale parce que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, spécifie de façon extrêmement précise les indications, les personnes à qui on peut administrer le vaccin. Donc, les AMM de 87-88, les AMM originelles, spécifiaient une population extrêmement étroite, en gros, les gens qui étaient à risque, effectivement, de contracter l'hépatite B, et d'un seul coup, en 94, on bascule à l'indication, c'est tout le monde. Alors, c'est un terme réglementaire, ça s'appelle une extension d'indication, et ça appelle, bien entendu, une nouvelle AMM, de nouvelles études, etc. Eh bien, il faut voir que on a eu, en France, une formidable extension d'indication, alors que le processus réglementaire d'extension de l'AMM a été complètement court-circuité. Alors, quand on dit ça aux gens de l'agence, ils sont extrêmement gênés et ils préfèrent parler d'autre chose.
L'agence du médicament. Donc, un produit qui a eu une extension d'autorisation de mise sur le marché sans de nouvelles études,
voilà.
Et un produit, le Genevac, le produit Pasteur, qui n'a pas été autorisé sur les autres marchés de l'Europe et du monde, mis à part la France.
Alors, évidemment, il ne faut pas faire dans la diffamation. Moi, je ne dis pas que ce médicament a été refusé, mais enfin, il est extrêmement suspect qu'un médicament, à l'époque de l'internationalisation, ne soit autorisé que dans un seul pays. Les deux hypothèses qui viennent à l'esprit, évidemment, c'est soit le dossier était tellement mauvais et il a été refusé dans les autres pays étrangers, soit le fabricant avait une telle conscience de la nullité du dossier qu'il n'a même pas essayé présenter son médicament sur d'autres, à d'autres administrations.
La promotion du vaccin, est-ce qu'elle a été faite dans les règles ?
Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a une jurisprudence extrêmement importante, à la fois réglementaire et judiciaire, sur la publicité mensongère, la publicité abusive. Bon, il est absolument effarant de regarder que pendant la campagne de vaccination, il y a eu aucune sanction de la commission de contrôle de publicité, donc qui dépend de l'agence du médicament, aucune sanction pour des excès qui sont quand même encore dans toutes les mémoires, alors que l'administration française peine aujourd'hui à inventorier plus de 600 cas d'hépatite B aiguë par an, hépatite B étant une maladie essentiellement bénigne. Rappelez-vous qu'à l'époque, on était à 100 000, voire 300 000, qu'on nous expliquait que cette maladie était terriblement mortelle. Enfin, et on nous a parlé aussi de la transmission par la salive. Bon, je crois que techniquement, scientifiquement, on peut dire que la publicité sur le vaccin contre l'hépatite B a été gravement abusive.
Et au niveau de la prescription, le nombre de doses nécessaires prescrites.
Ah oui, alors il y a aussi quelque chose qui est très 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 intéressant, c'est-à-dire que les vaccins Ingerix, qui était le concurrent de Genevac et qui, lui, disposait d'un dossier international et qui a été vendu à peu près dans tous les pays du monde. Bon, il y a un schéma vaccinal qui est à peu près commun dans le monde entier, c'est on injecte une fois, on injecte ensuite au bout d'un mois et on injecte ensuite au bout de 6 mois, 3 injections au total et c'est fini. Bon, c'est fini pour la vie. En France, et on ne sait pas pourquoi, et on aimerait bien savoir pourquoi, on injecte une fois, on injecte un mois après, on injecte deux mois après, on injecte un an après, et on injecte tous les cinq ans. Alors, ça pose un double problème. D'une part, le problème du coût économique, parce que bien entendu, il suffit de faire une multiplication dans sa tête, rien que 4 injections pour l'immunisation de base, puis un renouvellement tous les 5 ans, ben, c'est pas la même chose pour un vaccin qui est extrêmement cher. Et deuxièmement, alors que le spectre des faits indésirables a l'air de tourner quand même, comme attendu, avec des vaccins autour de réactions immunitaires, ça n'est peut-être pas très intelligent de réactiver comme ça, de façon aussi inutile, les réactions à ce vaccin. Moi, j'ai vu des gens qui avaient très bien toléré leur première vaccination, même le rappel à 1 an, et qui explosent littéralement lors du rappel à 5 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des gens un peu inquiets me disent « ça peut arriver, est-ce que je peux encore avoir un ennui ?», je leur dis « ne vous faites surtout pas revacciner contre l'hépatite B ».
Quel était le prix du vaccin ?
De mémoire, à l'époque, c'était à peu près 120 francs, c'est-à-dire à peu près 20 euros, c'est-à-dire extrêmement cher pour un vaccin, des vaccins issus du génie génétique, c'est-à-dire un domaine de la pharmacie extrêmement rentable. Bon, moi, je ne suis pas économiste, mais mes amis aux affaires économiques m'ont toujours dit que la marge bénéficiaire dans ce domaine, c'était supérieure à 98%, c'est-à-dire supérieure à la cosméto. Donc, il faut quand même voir les sommes considérables qu'a rapporté cette campagne vaccinale aux fabricants et éventuellement ce qu'a coûté cette campagne vaccinale au système d'assurance maladie.
Bon, en gros, on estime... Alors là, les chiffres ne sont pas très précis.
Bernard Bégaud, pharmaco-épidémiologiste.
Certaines sources font état de 66 millions de doses vendues de vaccins de 1994 à 1998, d'autres de 90 millions de doses. Donc on est dans une marge d'incertitude. Alors probablement parce que certains comptent ce qui est hospitalier, d'autres ne le comptent pas. Enfin, le minimum, quand même, est qu'entre 1994 et 1998, 26 millions de Français ont été vaccinés. 26 millions, dont probablement au moins les 2/3 d'adultes, alors que la cible, je le rappelle, était le nourrisson et le jeune enfant. Donc il s'agit d'un dérapage plus que massif. Non ?
Combien coûtait la dose de vaccin à cette époque ?
Oui, 18 euros à peu près, là, la dose, ouais, à l'époque, oui. De vaccins. Ce qui faisait 55 euros d'aujourd'hui pour une vaccination complète, 3 doses. Et pour ces 66 millions de doses, 7,9 à 8 milliards de francs d'époque, c'est-à-dire 1,2, 1,3 milliards d'euros d'aujourd'hui.
Les laboratoires ont financé une partie de la campagne de promotion, oui, du vaccin. Je crois qu'ils ont... Alors, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez nous expliquer ça, de quelle manière ils ont pu un peu mettre la main sur l'OMS et avoir une influence sur l'OMS quant aux décisions vaccinales. Alors, je crois que ça, c'est un fait avéré.
Oui. Alors, oui, alors l'OMS est évidemment une organisation extrêmement respectable. Mais bon, c'est vrai que, enfin, moi, je le dis à titre personnel, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que les acteurs que j'avais, en face de moi, enfin, à mon modeste niveau, quand je parlais avec les laboratoires pharmaceutiques, je les retrouvais parmi les experts de l'OMS. Mais c'est vrai qu'il y a eu là un mélange des genres très, très curieux, parce que les arguments des uns se retrouvaient chez les autres et vice-versa. Bon.
Marc Girard, donc mise sur le marché abusive, promotion abusive.
Mise sur le marché irrégulière, à mon sens.
Prescription abusive, avec un schéma de rappel abusif. Comment les laboratoires ont pu avoir cette toute-puissance sur la santé publique ?
On vit dans un monde capitaliste, les industriels cherchent à gagner de l'argent, Renault cherche à gagner de l'argent, l'agroalimentaire cherche à gagner de l'argent. Donc il n'y a rien de scandaleux à mes yeux au fait que les fabricants de vaccins cherchent à gagner de l'argent. Mais on oublie trop souvent qu'il y a 2 ou 3 verrous de sécurité face à cette volonté légitime des fabricants de gagner de l'argent. Premier verrou de sécurité, l'administration sanitaire. Deuxième verrou de sécurité, les prescripteurs. Qu'est-ce qui oblige les prescripteurs à vacciner en masse les gens contre une maladie qu'on n'avait quasiment jamais vue jusqu'à présent. Et troisièmement, troisième verrou de sécurité, les organismes payeurs. Qu'est-ce qui a pu faire que le comité des prix a autorisé des prix aussi exorbitants? Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut bien poser le problème et pas rentrer dans des croisades tout à fait inadéquates. La question n'est pas la volonté, encore une fois, légitime de quelque industriel que ce soit d'essayer d'améliorer sa rentabilité. La question est la faillite complète de tous les verrous de sécurité que, très légitimement, la société a prévus pour contrôler le risque de débordement.
Comment peut-on expliquer la faillite de tous les verrous de sécurité ?
Il y a beaucoup de mécanismes. Les gens pensent effectivement au conflit d'intérêts et pensent à l'argent. Indubitablement, l'argent, ça existe. Moi, j'ai consacré la part la plus importante de mon énergie à lutter contre une autre forme de faillite expertale et une autre forme de corruption expertale, c'est tout simplement l'incompétence. On vit aujourd'hui, malheureusement, dans une société où les gens qui sont en position d'experts sont loin de tout savoir, la compétence suffisante pour le job. Lorsqu'on entend des gens de l'agence du médicament répéter comme des gourdes le bénéfice du vaccin contre l'hépatite B est évident et ne sera pas remis en cause, ben précisément, le vrai problème, c'est que le bénéfice du vaccin contre l'hépatite B, il attend encore d'être démontré dans un pays comme le nôtre.
Marc Girard, vous pouvez nous lire ce texte qui s'appelle « L'habile stratégie d'un labo ».
Ah oui, c'est très intéressant. Donc, c'est un commercial de Beecham donne une interview à un canard qui n'est pas du tout un canard confidentiel, puisqu'il s'agit de Science et Avenir de janvier 1997. Et il déclare, avec une sorte d'innocence vertigineuse, « Dès 1988, nous avons commencé à sensibiliser les experts européens de l'Organisation mondiale de la santé à la question de l'hépatite B. De 1988 à 1991, nous avons financé des études épidémiologiques sur le sujet pour créer un consensus scientifique sur le fait que cette hépatite était un problème majeur de santé publique. » Et c'est quand même absolument renversant, sidérant, de voir l'innocence avec laquelle ce responsable de l'industrie pharmaceutique nous révèle que les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont besoin des commerciaux de l'industrie pharmaceutique pour être sensibilisés, je cite, sensibiliser les experts européens, sensibiliser aux problèmes majeurs de santé publique. C'est proprement vertigineux. Je vous ai parlé de l'incompétence expertale. Je vous donne une illustration extrêmement éclairante de ce que c'est que l'incompétence expertale.
Et vous, Bernard Bégaud, dès 1996, vous êtes mandaté comme expert scientifique à l'AFSAPS ?
Oui, enfin, moi, j'étais vice-président de la commission de pharmacovigilance. Et en 97-98, on a réalisé plusieurs études pour le compte de l'AFSAPS et de la Direction générale de la santé, dont celles qui ont abouti, entre autres, à la décision de Bernard Kouchner.
Et qu'est-ce qui se passe alors ? Qu'est-ce que vous signalez aux autorités publiques à ce moment-là ?
C'est-à-dire que Bernard Kouchner, quand il est arrivé en mai 1997 à la santé comme secrétaire d'État, prend l'affaire très au sérieux et décide que des études seront menées. Il y a deux études qui sont financées par les pouvoirs publics cette fois-ci, pour éviter, entre guillemets, tout problème de conflit d'intérêts, qui montrent, une association, c'est-à-dire un risque plus élevé en clair de sclérose en plaques chez les vaccinés, mais de façon assez modeste, 1,5 fois plus, voilà. Et puis surtout, non statistiquement significatif. C'est-à-dire que dans cette étude, ce qu'on appelle la puissance statistique n'est pas suffisante pour éliminer un effet du hasard. Donc c'est un résultat qui est positif, mais pas entièrement concluant. Donc c'est la pire des choses pour communiquer pour un ministre. Donc Bernard Kouchner a eu en main une étude qui ne lui permet pas de dire « il n'y a rien », puisqu'il y avait 1,5 à 1,7 fois trop, mais ne lui permettait pas de dire non plus « il y a », parce que ce n'était pas statistiquement significatif. Donc, il a tranché en disant Il n'y a pas de preuve, mais en raison des précautions nécessaires, je suspends la campagne chez les scolaires, quoi. Et je maintiens celle chez les nourrissons. Et bien sûr, les sujets à risque, ça existait depuis toujours.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été démontré scientifiquement que la vaccination contre l'hépatite B pouvait être associée à un risque de sclérose en plaques. Et l'on considère même que ce risque est nul chez le nourrisson. Cependant, l'étude de Hernan menée en 2004 chez l'adulte et celle de Tardieu menée en 2008 chez l'enfant concluent au contraire à un risque avéré. La Commission nationale de pharmacovigilance estime toutefois que ces études ne remettent pas en cause les bénéfices collectifs de la vaccination contre l'hépatite B. Bernard Bégaud, vous m'avez dit, quand je vous ai eu au téléphone, que vous vouliez écrire un livre avec un journaliste du Monde pour refaire l'histoire de cette vaccination. Pourquoi ?
Parce que c'est un des... D'abord parce que c'est pour être en paix avec la conscience, parce que c'est une affaire dans laquelle on se dit est-ce que finalement je ne me suis pas trompé ? Mais il y a des choses qui méritent aussi d'être connues et qui ne sont pas du tout connues. Les difficultés qu'on a eues pour publier les études, toutes les pressions qu'on a pu subir, tout ça, je crois qu'il faut le dire.
Vous avez subi quoi comme pression ?
Non, mais pas des pressions au sens qu'on allait nous mettre une gueuse de fonte et nous jeter au fond de l'océan. Mais enfin, pour les publications, il y a eu des omertas, dont j'ai du reste des signes sur Internet, où on nous dit, quand on soumet, par exemple, on envoie une lettre à un éditeur d'un grand journal, il nous dit qu'il n'a pas reçu, on le renvoie 10 fois, il n'a pas reçu. Et in fine, il dit « Ah oui, je l'avais reçu, mais maintenant, il est trop tard pour que je la publie. » Vous voyez, c'est genre comme ça, c'est amusant. Ça, bon, ça je crois qu'il faut
faire ça. Des lettres établissant le soupçon
sur
les effets secondaires de la vaccination.
Oui. Puis la rumeur s'est enflée. Il y a eu beaucoup de fausses informations dans l'autre sens, cette fois-ci. Alors, le vaccin, c'est tout juste, il ne provoque pas des cancers du cerveau. Vous voyez, bon, à force de mentir, les gens ne savent plus. Et donc, tout est possible, quoi. Donc moi, ce que j'attendrais, c'est vraiment un retour sur une information objective où on dise, voilà, ben, il s'est passé ceci et cela. Non, ça ne se transmet pas par la salive. Non, l'hépatite B n'est pas supérieure au sida, bien au contraire. Mais voilà pourquoi. Voilà. Et ça, ça fait quand même 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ben, ça fait longtemps maintenant qu'on l'attend. Depuis 96, 97, on se dit, ils vont le dire, ils vont le faire. Mais non, ça fait... 10 ans que l'affaire est vraiment éclatée, même, que dis-je, 12 ans, et on attend toujours une prise de position claire des pouvoirs publics. Donc c'est dramatique.
La juge Berthela Geffroy, qui instruit au pénal l'affaire du vaccin contre l'hépatite B, a mis en examen, 12 ans après les premières plaintes, les fabricants du vaccin Smith-Kline-Bitcham et Pasteur-Mérieux MSD, pour tromperie aggravée. Par ailleurs, 120 personnes vaccinées obligatoirement dans le cadre de leur travail ont été indemnisées par les juridictions administratives. Mais en ce qui concerne les plaintes au civil, aucune indemnisation décidée en première instance et en appel n'a réussi à franchir le cap de la Cour de cassation.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi une technique de lobbying qui est beaucoup plus développée qu'auparavant ?
Alors, dans les techniques de lobbying, quitte à se faire des amis, allons à l'essentiel.
Marc Girard.
Je pense que les magistrats, dans leur rigidité, seraient bien avisés de conscientiser qu'à l'échelle mondiale, les fonds consacrés par l'industrie pharmaceutique à leur lobbying visent de plus en plus, en France et ailleurs, le milieu judiciaire. Et avoir le blocage des affaires judiciaires sur les grandes affaires de santé publique, on a l'impression que ce lobbying est cette fois très efficace. Pourquoi, par exemple, est-ce que en 2000, j'ai plus la date exacte, je pourrais la retrouver, dans la grande salle de la Cour de cassation, va s'organiser un colloque très solennel organisé sous l'impulsion de l'Académie de médecine, où on va présenter aux magistrats les risques de stopper la vaccination contre l'hépatite B si par hasard il y a des décisions judiciaires défavorables. Donc voilà le résultat d'un lobbying. Aujourd'hui, les magistrats français au plus haut niveau, je cite très clairement la Cour de cassation, sont convaincus que si l'on n'indemnise les victimes pourtant indubitables du vaccin contre l'hépatite B, ils vont être responsables d'un drame absolu de santé publique qui s'appellerait l'hépatite B.
C'est-à-dire un arrêt de la vaccination.
Un arrêt d'une vaccination dont ils ont été convaincus, notamment au cours de ce colloque, qu'elle était absolument vitale aux citoyens de notre pays.
Vous avez l'impression que votre invention, Pierre Thiollet, elle a été mal promue.
Non. Pourquoi ?
Parce que en France, comme vous disiez, l'endémie était relativement faible.
Relativement faible, oui, mais c'est quand même une maladie qui touche 0,3%. Il y a 0,3% de la population française qui est porteur chronique du virus. C'est pas nul quand même, 0,3% de la population, ça représente quelque chose. Et puis par ailleurs, on l'attrape et normalement on en guérit, ou malheureusement certaines personnes peuvent développer une cirrhose ou un cancer du foie. Donc non, ça reste quand même, c'est une maladie parmi d'autres, mais enfin c'est une maladie qui est quand même, qui n'est pas très répandue, mais tout de même qui existe. Hein. La jaunisse, c'est connu de tout le monde. Tout le monde sait ce que c'est que la jaunisse. Eh bien, l'hépatite B, c'est la jaunisse.
Mais en France, on savait qu'il y avait certaines populations qui étaient plus à risque que d'autres. Les toxicomanes, les gens qui avaient des relations sexuelles multiples.
C'est ça.
Et il y avait un grand nombre de personnes qui n'étaient pas à risque.
Oui.
Faut-il vacciner tout le monde ? Ne faut-il pas ? Faut-il vacciner que les populations à risque ? Ce sont des questions de santé publique importantes. Oui. Donc selon vous, c'est pas de votre responsabilité de penser à ces choses-là.
Non, c'est pas de ma responsabilité. Vous avez tout à fait raison. C'est pas de ma responsabilité. Mais enfin, je crois quand même qu'il est bon de vacciner les jeunes gens vers 10-15 ans qui auront des relations sexuelles quelques années plus tard, quoi. Hein. Enfin, une personne de 60 ans bien calme, c'est peut-être pas nécessaire. Mais encore une fois, c'est pas ma responsabilité. C'est pas à moi de prendre les décisions.
Donc, non, parce que moi, je me posais la question de un grand chercheur, un grand scientifique dans une société, quand il met au point une nouvelle technologie, une nouvelle invention, est-ce qu'il a l'impression d'avoir une responsabilité après, quant à l'utilisation de cette technologie ?
Oui, dans un sens, j'ai une responsabilité sur... ce qu'on fait du vaccin, oui, dans un sens, oui. Tout ce que je dis, moi, toujours, c'est qu'il y a toujours un risque dans l'acte médical, et je donne toujours comme exemple M. Chevènement, qui, comme vous le savez, a failli mourir d'une anesthésie. Or, demain, vous, mademoiselle, si vous avez besoin d'une anesthésie, on vous la fera. On vous la fera. Même si M. Chevènement a failli mourir d'une anesthésie. Bon. Alors, qu'il y ait eu des complications avec le vaccin hépatite B, même en supposons même qu'il y en ait eu quelques-unes, c'est possible, comme dans tout vaccin d'ailleurs, vous savez que tout vaccin donne quelquefois des troubles immunitaires, quelques troubles, peut-être, mais à côté de ça, moi quand j'étais interne en médecine, combien les infirmières attrapaient l'hépatite B ? C'est extrêmement fréquent, parce qu'elles manipulaient du sang, et maintenant elles sont vaccinées, elles sont protégées. Il faut voir ça en médecine, je trouve, le pour et le contre, comprenez-vous ?
Vous n'avez pas l'impression que votre invention, elle a été instrumentalisée pour des raisons économiques ?
Oh non, je n'ai jamais pensé ça, non.
Parce que là, on n'a pas vacciné que les infirmières, que les gens au contact du sang,
oui.
On a vacciné toute la population.
C'était excessif, à mon avis. C'était excessif.
Pourquoi on est allé dans cet excès-là ?
Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas.
Huit pays européens ont choisi de vacciner contre l'hépatite B uniquement les personnes à risque. La France fait partie des autres, qui suivent les recommandations de l'OMS, à savoir la vaccination de tous les enfants. La vaccination de masse peut être considérée comme un choix collectif qui nous engage tous contre un virus. Ce choix, réaffirmée par la campagne vaccinale de février 2009, paraît faire l'objet d'un consensus. Dans ce cas, il semblerait nécessaire que les autorités sanitaires soient plus transparentes sur les risques inévitables que comporte ce choix. Histoire du premier vaccin fabriqué par génie génétique, le vaccin contre l'hépatite B. Avec Pierre Thiollet, Ernest Gutmann, Christian Vélo, Claude Béraud, Bernard Bégaud et Marc Girard. Un très grand merci à Emmanuel Thomas, Michel Georget, Pierre-Louis Renard, ainsi qu'au REVAB, à l'AFSAPS et à l'Institut de veille sanitaire. Archivina France Inter, Amélie Briand-Lejeune, prise de son, Frédéric Sordoyer, Étienne Leroy, mixage, Delphine Baudet, attachée de production, Christine Gage, Laure-Hélène Planchet, producteur coordonnateur, Joseph Confavreux, réalisation, Rafik Zénine, une émission d'Inès Leroux.
Campagne contre l'hépatite B, c'était le thème du documentaire que vous venez d'entendre d'Inès Leroux. Demain, à l'automne, campagne contre le H1N1, faut-il jouer sur tous les fronts de la population, sur quelques-uns d'abord par priorité? Le dossier est ouvert et aussi sur notre site, dans la mesure des moyens modestes de Sur les Docs. Il est 17h, vous écoutez France Culture.